Bienvenue dans notre nouveau numéro de C'était mieux après, notre podcast de l'association Synapse. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet qui s'appelle l'économie sociale et solidaire et le blue washing, dont on avait parlé en novembre en apéro décryptage. Donc ça remonte à il y a longtemps. Je ne sais pas si vous en souvenez de tout ce qu'on a dit et fait. J'ai un peu réécouté ce matin.
T'as triché quoi?
On prend des notes, quoi. C'est tout, c'est comme ça. Donc voilà, pour présenter les personnes qui sont autour de la table, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Et on va partir de ma droite.
Oui, alors nous, c'est Manon et Léna, du bruit de la conversation. Du coup, on est un collectif pluridisciplinaire d'éducation populaire et d'urbanisme participatif.
Moi, je suis Laure et je suis de l'association ESTOC, qui est une association loi 1901 qui propose l'accompagnement de porteurs de projets, d'économie sociale et solidaire, et qui également gère un lieu qui s'appelle L'Envolée, dans lequel nous vous accueillons aujourd'hui, qui est un espace de travail collaboratif qui se situe quartier Rangueil à Toulouse.
Et donc moi c'est Julien et je fais partie de l'association Synapse. J'interviens régulièrement dans ces podcasts et dans ces apéros décryptage pour les mener régulièrement avec toi, Clément.
Et oui, et moi c'est Clément, du coup, comme on a pu le deviner. Donc en novembre dernier, on décide de faire un apéro décryptage sur le thème qu'on appelait le blue washing et l'économie sociale et solidaire. Est-ce que quelqu'un peut définir le blue washing?
Peut-être remettre dans le contexte pourquoi on a fait ça à ce moment-là et où on est justement, le fait qu'on se trouve à L'Envolée, peut-être présenter plus en détail L'Envolée et le fait que ça nous concerne un peu.
Ouais, effectivement, L'Envolée, c'est un espace de travail collaboratif, comme je le disais, qui rassemble donc dans un même lieu, dans des mêmes bureaux, différentes structures donc qui sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire et qui travaillent sur plein de thématiques différentes. Alors, vous avez entendu, et elles sont avec nous, le bruit de la conversation. Donc, je ne les représenterai pas. Mais il y a également une structure qui s'appelle Via Brachi, qui fait du tourisme solidaire. Il y a également Guayabo Collectivo, qui travaille sur des projets artistiques en lien avec la Colombie.
Tout à fait.
Il y a également les chercheurs d'autres, qui est également une association culturelle qui propose des événements, ateliers, animations et différentes actions autour de autour de l'interculturalité, notamment avec la Guyane, puisqu'ils ont aussi des bureaux en Guyane. Et qui j'oublie, Synapse, vous êtes là, êtes présenté.
Il y a Locombia qui est aussi là, Locombia, qui organise exactement un festival autour des cultures colombiennes, toujours.
Et Campus et toi, oui. Et Campus et toi, qui propose, je te laisse. Enfin, en tout cas, on est un lieu identifié économie sociale et solidaire, puisqu'on a même une petite labellisation en tant que ESSCAL, par la métropole toulousaine, qui reconnaît le fait qu'on s'inscrit dans ce champ de l'économie sociale et solidaire, et qu'on essaye, en tout cas, à notre modeste niveau, de faire rayonner l'économie sociale et solidaire sur le territoire en lien, alors je les ai oubliés mais ils sont très importants, l'Astronef et les Étonnés, puisque ce lieu, L'Envolée, est au-dessus d'un bar qui s'appelle l'Astronef, qui est un café culturel de quartier. Voilà.
Oui. Où l'on réalise ses apéros décryptage. Et la boucle est bouclée. Et du coup, au mois de novembre, pourquoi on a fait ça? Parce que justement, il y avait...
On a organisé cette journée. On avait appelé ça journée portes ouvertes, même si je ne sais pas si c'est vraiment le mot. Et puis en plus, c'était que le soir. Mais en tout cas, l'idée, c'était de pouvoir montrer un peu ce qu'on fait ici, les différentes structures. Donc chacune a proposé une petite animation, un petit atelier, des films également qui ont été projetés. Et on a fait ça dans le cadre du mois de l'ESS, puisque tous les ans, au mois de novembre, il y a ce qui est organisé au niveau national, un événement qui s'appelle le mois de l'ESS, durant lequel il y a tout un tas de manifestations qui sont mises en place dans toute la France pour faire connaître l'économie sociale et solidaire au grand public.
Très bien résumé. Nous, cet apéro décryptage, du coup, pour en venir à cette première question, on avait décidé de l'intituler « Blue washing et économie sociale et solidaire ». En tout cas, on était parti sur le terme « blue washing ». Est-ce que vous vous souvenez de la définition exacte qui nous a été donnée par Thomas Belet de Locombia?
Alors, dans mon souvenir, alors effectivement, peut-être qu'on n'a pas utilisé le terme qui était complètement approprié, mais peu importe. En tout cas, le blue washing, si je me souviens bien, ce que nous avait dit effectivement Thomas, c'est un terme qui a été inventé par l'ONU, me semble-t-il, c'est ce qu'il disait, et qui, en fait, c'est toutes les entreprises, les structures, on va dire, de l'économie classique, de marché, qui vont se faire valoir ou mettre en avant toutes les actions qu'ils peuvent mener dans le champ de l'économie sociale et solidaire et qui vont beaucoup les valoriser, puisqu'ils ont les moyens de le faire, donc ils les valorisent bien. Toutes les actions qu'ils mettent en place dans ce, enfin, qu'ils disent mettre en place dans ce champ de l'économie sociale et solidaire. C'est à mettre en parallèle avec le greenwashing, toutes les entreprises qui disent qu'elles font du vert. Après, derrière, est-ce qu'elles en font ou pas, c'est toute la question. Et c'est la même chose avec l'économie sociale et solidaire. Tous ceux qui se prévoient, qui disent on est dans le champ de l'économie sociale et solidaire, mais après, qu'est-ce qu'ils font dans la réalité, c'est toute la question.
Et comme objectif de donner une meilleure image.
Exactement.
C'est ça, il y a une part dans ces concepts-là de communication, voire de surcommunication, du coup, où on va mettre en valeur des choses qu'on va faire, donc soit dans l'économie sociale et solidaire, soit du côté greenwashing dans l'écologie, en fait, mais qui ne sont pas forcément... qui sont des fois exagérés par rapport à d'autres questions que peuvent soulever telle ou telle entreprise et telle ou telle façon de procéder, quoi.
Je disais quand vous êtes arrivés, je suis allé regarder donc une vidéo qui nous présentait donc un nouveau lieu de l'ESS, un tiers lieu qui s'appelle lui-même un tiers lieu, donc qui sont les Halles de la Cartoucherie à Toulouse, dans un quartier tout neuf qui est sorti de terre il y a un an peut-être ou deux. Moi, ce qui m'a choqué dans cette vidéo, c'est que les images qu'on nous montre, en fait, ce sont des gens qui jouent au squash, des gens qui sont au resto, des gens qui sont avec leur Mac dans leur espèce d'espace de coworking bizarre parce qu'ils sont juste sur une table. Moi, ça m'a pas du tout inspiré le mot économie sociale et solidaire. Et pourtant, les personnes qui en parlent, les voix off qui sont derrière, nous parlent de l'économie sociale et solidaire avec beaucoup de termes qui, moi, me font penser à du marketing. Mais bref, c'est quelque chose, moi, qui m'a un peu frappé d'avoir cette impression qu'aujourd'hui on markete le social et la solidarité comme on peut marketer une voiture, une truc. Je sais pas s'il y a des réactions là-dessus.
Oui, et pourtant ils sont dans le vrai, c'est-à-dire que quand ils disent qu'ils sont dans le champ de l'économie sociale et solidaire, c'est vrai. On ne peut pas dire que c'est faux, puisque la définition de l'économie sociale et solidaire, si on prend la définition la plus large, mais en tout cas, voilà, c'est la définition qui est donnée par la loi dont tu parlais, qui a été faite par Benoît Hamon. L'économie sociale et solidaire, c'est d'abord un statut juridique. Et ça se définit d'abord et avant tout par un statut juridique. Et les statuts juridiques de l'économie sociale et solidaire, c'est l'association. C'est la fondation, c'est la mutuelle, c'est la coopérative. Donc, aussi bien le crédit coopératif énorme qu'une énorme mutuelle, que Synapse, que Estoc, on fait partie de l'ESS parce qu'on a un statut juridique qui fait que effectivement on peut se prévaloir de l'économie sociale et solidaire. Donc ils mentent pas quand ils disent, enfin tu vois, voilà, c'est pas faux. Tu peux pas leur dire, mais non, c'est pas vrai, vous êtes pas dans le SS. Si, ils sont dans le SS parce qu'ils ont un statut juridique de l'économie sociale et solidaire. Et là, ça permet de se rendre compte, enfin évidemment, que la définition juridique est loin d'être suffisante. Selon moi, en tout cas, pour définir le fait d'être dans le SS.
Est-ce que, justement, enfin, c'est la question qui me vient, est-ce que dans la loi, à un moment, en fait, ça parle de valeur portée par la forme juridique, quelle qu'elle soit, est-ce qu'elle doit cocher des cases en termes de valeur ?
Non. C'est vraiment uniquement, il y a uniquement la question, non, dans la loi, il n'y a pas ça. Après, elle permet à des structures qui n'ont pas un statut juridique qui leur permet d'être de fait dans l'économie sociale et solidaire, de pouvoir se prévaloir du fait d'être dedans. Parce qu'elles vont défendre un certain nombre de valeurs, parce qu'elles vont avoir un mode de gouvernance particulier, c'est-à-dire même une SARL, une SAS, enfin voilà, donc un statut juridique d'entreprise tout à fait classique. Peu parce qu'elle va, encore une fois, avoir une gouvernance particulière, parce qu'elle va avoir une absence, parce qu'elle ne va pas distribuer des dividendes à ses actionnaires. Enfin voilà, il y a quelques critères comme ça qui vont permettre à une entreprise classique de dire « mais moi aussi, je fais partie de l'ESS ». Mais il n'y a pas vraiment... non, parce que si tu veux, les statuts juridiques quand même de l'association sont porteurs de valeurs. Une fondation, une mutuelle, derrière, il y a déjà des valeurs qui sont considérées comme intrinsèques, qui donc... pour moi, en tout cas, ce n'est pas précisé plus que ça. Dans cette loi-là.
Donc en fait, on peut imaginer une entreprise qui va se réclamer de l'économie sociale et solidaire, qui en aura le droit, tout en ayant un champ d'action qui soit complètement... en fait, tous les champs d'action peuvent marcher. C'est-à-dire que je peux monter une boîte qui fabrique une voiture et me réclamer de l'économie sociale et solidaire.
Ah bah si tu es une coopérative, par exemple, ouais. Bien sûr. Ah bah oui, évidemment. Alors après, la coopérative, elle appartient à ses salariés. Enfin, tu vois, voilà, en elle-même, c'est pareil. Pour tout ce qui est partage des bénéfices, etc., c'est aux salariés, il n'y a pas d'actionnaire. Enfin, tu vois, voilà. Donc, y a, de fait, quand tu es dans une coopérative, tu as quand même un fonctionnement particulier qui n'est pas celui du marché classique.
Donc, ce qui amène peut-être aujourd'hui à ces histoires justement de valeurs, parce que j'ai un peu l'impression aujourd'hui, vraiment là dans ces années 2010-2020, qu'on est comme je disais, on peut fabriquer une voiture, je peux dire que je fabrique une voiture sociale et solidaire et ça marche, et je peux aussi fabriquer un avion, enfin je peux même fabriquer un truc très polluant tant que c'est social et solidaire, ça peut fonctionner. Moi, c'est quelque chose qui me... Je sais pas, qui me choque un peu, en fait.
Oui, c'est un effet de mode et ça marche dans la com de dire qu'on fait du social. Regardez, on est écologique et regardez, tous les gens de tous les milieux sont les bienvenus chez nous. Et puis tant mieux que ce soit un effet de mode, qu'on mette en avant que le social et l'écologie, tant mieux que ce soit une thématique actuelle. Mais il faut pas l'utiliser. À tort et à travers, et surtout si c'est pas forcément la vérité, quoi. C'est surtout ça le problème. Et comme le terme tiers-lieu aussi est un peu utilisé à tort et à travers, et au final, on sait plus vraiment ce que ça veut dire. Du coup, là, économie sociale et solidaire, au final...
Justement, tu parles du mot tiers-lieu qu'on utilise, qu'on commence à utiliser à tort et à travers. Du coup, c'est quoi la définition d'un tiers-lieu ?
Moi, j'ai l'impression que ça devient juste un lieu où il y a plein d'usages possibles qui peuvent se faire de manière... concomitante, mais...
Je pense que là, alors après, c'est pareil, la définition, je pense que je ne suis pas sûre qu'il y ait une définition juridique d'un tiers-lieu, mais un, effectivement, en tout cas, tel que les institutions l'entendent, le tiers-lieu, c'est un, comme tu le dis, c'est un endroit où plein d'acteurs différents, qu'ils soient d'ailleurs de l'ESS ou pas de l'ESS, hein, parce que c'est pas forcément, vont se mettre ensemble pour proposer des services à des habitants. Il y a très souvent dans les tiers-lieux, ça c'est un truc un peu, c'est, d'ailleurs ça vient de là, les tiers-lieux, il y a très souvent du coworking. C'est voilà une part d'activité importante, donc coworking, donc plein d'entrepreneurs, d'entreprises dans un même lieu qui vont proposer, qui proposent des choses très différentes. Mais pour moi, un tiers-lieu, il n'y a pas forcément de choses plus, de définition plus précise que ça.
Non, moi j'avoue, quand j'entends tiers-lieu, je pense à un lieu peut-être plus autonome ou autogéré ou un peu plus informel. Mais bon, s'il y a des lieux, enfin, il y a des lieux maintenant qui s'appellent tiers-lieu qui ne fonctionnent pas du tout de cette manière-là. Donc c'est vrai que c'est très large.
Parce que, alors moi, je connais pas du tout, enfin, je connais un peu comme toi, Clément, les tiers-lieux, j'en vois. J'ai cru comprendre qu'effectivement, il y avait eu une sorte d'institutionnalisation à travers des financements possibles pour monter un tiers-lieu. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la vitesse où ça va aujourd'hui. C'est-à-dire que le tiers-lieu, ça n'a pas l'air très vieux comme concept, en fait, et qu'il a été très vite récupéré, subventionné, labellisé. Enfin, l'institution l'a très vite récupéré pour pouvoir le développer. Alors, ne sachant pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, en fait, avec toujours cette question qui, je pense, est un peu la question de fond de ce qu'on fait aujourd'hui, jusqu'à où c'est intéressant que ben, le monde de l'économie, le monde des institutions s'empare de ces questions-là, et jusqu'à où, ben, du coup, c'est quand elles s'en emparent, elles le dévoient et elles le dominent. En tout cas, nous, sur nos questions de communication, c'est assez clair, en fait, c'est qu'ils mettent rapidement des moyens pour exister exister du coup à travers leur communication et le marketing. Voilà, quand est-ce que c'est gênant, quoi?
Mais c'est vrai. Enfin, par exemple, quand on parle des halles de la cartoucherie, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, on n'aurait pas appelé ça un tiers-lieu, mais on l'aurait vendu comme, je ne sais pas, une halle d'activité. Enfin, je ne sais pas comment on l'aurait appelé. Mais du coup, de l'appeler ou de le vendre comme un tiers-lieu, je trouve que ça donne une image différente au lieu aussi. Et ça donne du coup une image peut-être plus sociale, plus... Enfin, différente, quoi, en tout cas.
Et il me semble aussi que le début des tiers-lieux, ça a été d'investir des espaces dans des quartiers qui étaient un peu défavorisés ou dévalués ou dans lesquels on donnait peu d'importance aux habitants. Et très vite, ces lieux-là ont pris vie et ont donné une plus-value au quartier. Et là, par exemple, il y a de la promotion immobilière qui s'est faite autour de ça. Il y a eu du foncier qui a pris de la valeur. Et donc, tout de suite, le champ du marché traditionnel a aussi vu l'intérêt qu'il y avait dans ce genre de choses et d'animation de quartier, en tout cas. Et donc, je pense aussi que c'est ça qui joue beaucoup dans le fait qu'aujourd'hui, ça pousse comme des champignons et que...
Pour poursuivre ce que tu disais sur, effectivement, des projets, des actions portées par des petites structures au départ qui, à un moment, vont être repérées par des institutions et qui, donc, vont s'institutionnaliser, comme tu dis, ou bien qui vont être repérées par des entreprises du marché plus classique qui vont s'emparer de ces actions-là et qui vont les mener à leur façon. Effectivement, ça, c'est vraiment quelque chose qui est d'ailleurs qui peut être régulièrement reproché, même à l'économie sociale et solidaire, et même aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est que il y a plein d'initiatives qui au départ sont des petites initiatives, de petits groupes, de petites structures qui finalement fonctionnent. Et à partir du moment où elles fonctionnent, effectivement, elles vont être reprises, améliorées. Ah bon, entre guillemets, ou en tout cas, elles vont changer d'échelle. Ça va leur permettre, le fait d'être reprises par des entreprises plus classiques va leur permettre de changer d'échelle, de se diffuser beaucoup plus largement, et après, effectivement, d'être absorbées finalement complètement dans le marché classique, dans le marché plus classique. Quand je dis que c'est quelque chose qu'on peut reprocher à l'économie sociale et solidaire, c'est qu'à un moment... toutes ces petites structures-là, elles ne sont pas capables de changer d'échelle pour tout un tas de raisons qui tiennent à leurs valeurs. Pour le coup, qui fait qu'elles vont pas vouloir aller faire le pas supplémentaire pour se diffuser beaucoup plus largement, parce qu'elles en ont pas, encore une fois, parce qu'elles en auront pas forcément les moyens, ou parce que ça correspond pas à leur ADN de petites structures, et qui effectivement sont reprises, sont récupérées par le marché, qui après on le transforme, en fait un peu ce qu'elle veut et le diffuse. Si tu veux, il y a quand même, pour moi en tout cas, et pour beaucoup de petites structures qui sont dans l'ESS, l'aspect territorial, l'aspect local est hyper important. Et dès qu'on commence à être sur des projets qui potentiellement peuvent être nationaux ou même, pourquoi pas, internationaux, là, il y a immédiatement une frilosité, et puis une absence d'envie de la part de ces petites structures-là d'aller se mettre sur ces champs-là. Et donc, elles laissent complètement le champ libre. Alors, à des entreprises classiques qui ont évidemment d'autres moyens aussi, qui ont les moyens de récupérer ça. Donc, c'est pas que la faute. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément. Il n'y a pas que de l'opportunisme et de l'opportunité de la part du marché de venir récupérer des trucs dans l'ESS pour les diffuser. C'est qu'aussi que l'ESS, elle n'arrive pas rarement.
Est-ce qu'elle a vocation ?
Et en plus, est-ce qu'elle a. Voilà, non, mais c'est ça. Et est-ce qu'en plus, elle a vocation complètement ?
Moi, tu vois, dans ce que tu décris depuis tout à l'heure, ça me fait un peu penser au monde de la start-up. Mais avec un petit twist dessus où, moi, de ce que j'en connais de mon domaine, qui est, on va dire, la tech, le numérique. On a une idée, soit on sort de la recherche et on a trouvé un truc, on a un brevet, et on va vouloir exploiter ce brevet et on va chercher à côté de ça, on va littéralement chercher à se faire racheter parce que le principe c'est de gagner de l'argent et d'avoir des investisseurs qui mettent du pognon et eux veulent récupérer de l'argent. Moi j'ai cette impression dans ce que tu as dit, que justement en fait c'est quelque chose qui est pas recherché peut-être par des petites structures. Moi de ce que j'en vois, de ce que j'ai l'impression d'en voir aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on recherche un peu à demi mot ce truc là quoi. Que en fait une entreprise de l'économie sociale et solidaire serait un peu une start-up comme les autres aujourd'hui.
Mais dans quel sens ? Est-ce que c'est les structures qui se créent de ESS qui chercheraient ça ou c'est le monde de l'institution et de la finance qui va regarder le monde de l'ESS en se disant tiens, lui je vais pouvoir le racheter, lui je vais pouvoir utiliser son concept ou...
J'ai l'impression, non la première quoi, j'ai vraiment l'impression qu'on en arrive aujourd'hui à vouloir en fait... devenir rentable, enfin soit devenir rentable, mais en tout cas, enfin à un moment, il faudrait de l'argent, quoi. C'est une question au final.
Ça prolonge ce que tu dis, mais ça pour le coup, c'est vraiment une évolution, moi que j'ai vue depuis que je travaille dans l'ESS, puisque je travaille maintenant depuis un peu plus de 20 ans dedans. Et si tu veux, quand j'ai commencé moi à bosser, je m'occupais d'un point d'appui à la vie associative. Les associations, ça rentre en termes d'ESS, c'est quand même un acteur de l'ESS important, primordial. Peut-être pas en poids financier, mais en tout cas en nombre de bénévoles et en nombre de gens qui s'impliquent dedans, c'est quand même assez énorme. Et si tu veux, à l'époque, les associations, en gros, elles vivaient de subventions, quoi. De subventions et de dons, on va dire de dons de fondations ou de dons privés, en gros quoi. Et depuis maintenant donc une bonne quinzaine d'années.
Et d'aide à l'emploi. Du coup.
Et d'aide à l'emploi, que j'assimile aux subventions, mais je pense complètement. Que c'est... Et d'aide à l'emploi, les emplois jeunes, etc. Enfin, bon, qui ont quand même permis à plein d'assos de se développer et d'avoir des salariés, etc. Et pour le coup, quand même, depuis une bonne quinzaine d'années, on demande aux associations de développer des activités économiques. On leur demande d'être rentables. Avec, si tu veux, ça, c'est à mettre en parallèle à la baisse des subventions. C'est ce qu'on... À l'époque, les assos pouvaient vivre avec des subventions. Au fur et à mesure, on leur a dit « Oulala, mais attention, la part des subventions dans votre chiffre d'affaires, ça ne doit pas être plus de 80%, et puis ça ne doit pas être plus de 60%, et puis ça doit pas être plus de 50%, et ça ne doit pas être plus de... » Voilà.
Juste petite question, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est dit par la loi? Ou est-ce que c'est, comme tu dis, du fait de « on a baissé les subventions »
ouais. C'est une évolution des politiques depuis 25 ans. Enfin, je veux dire, et là, pour le coup, c'est dans l'ESS et dans les assos, mais comme à peu près partout, les budgets baissent, il n'y a plus de sous. Donc, on coupe dans donc les budgets baissent. Donc, les associations, pour pouvoir continuer à mener leurs actions, on leur a dit, et puis elles-mêmes, elles se sont dit, parce qu'elles ne sont pas complètement... il faut qu'on trouve des sous. Bon, les dons vers les privés, etc., on n'est pas en Amérique, on n'est pas en Angleterre. Où c'est quand même beaucoup plus compliqué, à part pour les très grosses, le Resto du Cœur, etc. Mais enfin, pour des petites structures, les dons privés, c'est quand même beaucoup plus difficile d'y avoir accès. Donc, il faut qu'on développe des activités économiques, il faut qu'on développe des activités qui nous ramènent des sous. Pour faire face à la baisse de ces subventions. Donc, il y a vraiment... Toutes les assos, enfin je veux dire, à l'époque, moi, quand j'ai commencé à bosser, une asso qui avait des activités économiques, c'était une sur 10, quoi. Enfin, c'était rare, quoi. Aujourd'hui, quasiment, enfin, 90% des assos développent des activités, des prestations, vendent des services, de la formation, des ateliers, enfin bref. Donc vraiment, doivent faire entrer de l'argent, doivent avoir une activité économique pour pouvoir mener des actions et doivent donc inventer. Et ben, en fonction de leur secteur d'activité plus précis, elles doivent inventer, réfléchir, qu'est-ce que je peux développer comme activité économique qui me ramène un peu de sous pour pouvoir continuer à accompagner mon mec là qui de toute façon lui pourra jamais payer ce que je lui propose. Qu'est-ce que je développe à côté comme activité économique pour venir soutenir mes actions plus sociales, on va dire ça comme ça. Et ça, vraiment, pour moi, c'est l'évolution majeure pour les associations de ces dernières années, quoi.
Du coup, est-ce que ça rend pas... Enfin, j'avais deux questions. La première qui est que je me pose, c'est dire est-ce que ça rend pas un peu schizophrène de justement en fait être tout le temps un peu en recherche de fonds et de pas des fois de justement délaisser le côté de on va dire l'idée principale, peut-être le côté délaisser son côté idéaliste et dire mais il faut faire de l'argent et aussi est-ce qu'autour de cette table tout le monde en fait je crois que je pense toutes les assos ont des activités économiques.
Oui. Peut-être, quoi que si, non, j'allais dire, ouais, si. Tout le monde facture des trucs à un moment ou à un autre, hein, je suis à peu près sûr.
C'est clair. Non, c'est sûr.
On facture tous, ouais.
C'est tellement une vaste question. En tout cas, moi, pour ce que j'ai vécu dans les expériences associatives, que ce soit à Synapse ou dans toutes les autres, c'est tellement effectivement des questions qui ont amené tellement de débats et de clash dans certaines, parce que effectivement, ça posait d'énormes problèmes dans tout ce que tu as dit, quoi. Par exemple, l'arrivée du salariat déjà avec les emplois aidés, il y a eu, ce que j'ai observé, je passe sous votre contrôle, mais beaucoup d'assos qui ont passé le cap du salariat en se disant on a moins de bénévoles, ça marche moins bien, c'est moins fluide parce qu'il y a eu ça aussi, il y a une crise du bénévolat dans l'associatif. Du coup, on va prendre un salarié en se disant, on va déléguer une partie du boulot au salarié. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le salarié, il est devenu très important dans le fonctionnement de l'association, du coup, et est devenu le point central dans l'association. Et que lui, c'était son boulot, donc c'est pas le même engagement que du bénévolat, en fait. Du coup, lui, même s'il a des valeurs, il a envie de il vient pas là que parce que c'est un boulot. Du coup, c'est quand même son boulot. Donc ça a apporté plein de questions. Et une fois qu'un CA disparaît ou que le salarié, du coup, quitte l'asso, ça déstabilisait. En tout cas, moi, dans les assos auxquels j'ai participé, ça pouvait déstabiliser l'association, le projet associatif et tout ça. Donc ça, c'est un aspect, mais il y en a tellement d'autres dans la question que tu as posée.
Oui, et puis c'est très intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'effectivement, les associations ont été vraiment aussi, dans le même temps, tout ça, c'est une évolution qui va ensemble, ont été effectivement poussées à avoir des salariés. Effectivement, je parlais des emplois jeunes qui ont quand même été une opportunité pour des milliers de structures d'avoir des salariés. Mais après, le salarié, il était là. Alors, il y avait une aide pendant 5 ans, ce qui concernait les emplois jeunes. Mais sinon, après, sur ce qu'il y a eu après, c'était plutôt 1 an, 2 ans, les CAE, etc. Mais après, tu as ton salarié qui est là, tu veux qu'il continue à être là, il faut pouvoir continuer de le payer. Et donc, il faut payer un salarié avec ses charges tous les mois. Donc, il y a un moment, il faut rentrer des sous, quoi. Si tu veux pouvoir continuer à fonctionner. Donc, et même le salarié lui-même est amené à chercher les sous pour se payer, en gros. Donc ça, effectivement, c'est un aspect important. Et puis effectivement, la tension, pour revenir aussi sur ce que tu disais, c'est que tu as aussi cette tension entre le projet associatif et les activités économiques que je développe et arriver à faire cohabiter, coexister les deux dans le temps, c'est pas simple pour plein de structures. Et effectivement, ne pas se perdre en route, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais si tu veux, après, il y a un principe de réalité. Le principe de réalité, c'est qu'on est dans une économie capitaliste libérale et que si tu veux avoir des salariés, si tu veux développer des choses, tu es bien obligé de rentrer dans ce champ de l'économie et qu'on est bien obligé de composer avec ça. Après, il y a aussi plein de structures qui échappent complètement à ça, des petites structures beaucoup plus locales, beaucoup plus alternatives, qui ne vivent ni de subventions, ni qui refusent complètement l'économie de marché et qui donc ne rentrent pas du tout dans ces logiques-là. Elles existent, il y en a plein qui font plein de choses extrêmement intéressantes. Mais pour le coup, on en parle moins. Elles sont moins, mais il n'y a pas de salariés. Enfin, en tout cas, elles ne sont pas créatrices de richesse, on va dire ça comme ça. En tout cas, je parle vraiment de richesse, on s'entend, de richesse économique. Elles créent plein d'autres richesses, mais en tout cas, elles sont complètement invisibles et invisibilisées parce qu'elles ne créent pas de richesse, elles ne font pas monter le PIB, quoi. Donc, elles n'existent pas, quoi. Voilà. Mais pourtant, elles sont bien là. Elles font plein de choses. Elles ont plein d'impact. Elles font plein de choses. Et heureusement qu'elles sont là, notamment en milieu rural, pour faire vivre des villages, des communautés, etc. Mais elles n'ont aucune reconnaissance. Encore une fois, parce qu'elles créent pas d'argent, quoi. Elles sont pas dans le système. Aujourd'hui, je ne sais pas vous dans vos structures, mais en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé comment faire pour pouvoir faire ce que je fais sans un moment facturer et sans effectivement monnayer mes services comme n'importe quelle entreprise sur le marché, quoi.
Ouais, ce côté schizophrénique là dont vous parlez tous et toutes, c'est vrai qu'on nous aussi on le vit au quotidien et on se pose toujours cette question de à la fois faut qu'on se paye à la fin du mois, mais on a quand même envie de garder nos valeurs. Et là pour l'instant, ce qu'on a trouvé comme stratégie un peu, c'est de choisir avec qui on travaille. Donc oui, ils vont nous payer, mais en même temps, c'est pas les gros capitalistes ou les gens qui portent pas exactement les mêmes valeurs que nous. Il y a certaines collectivités, pour ne pas les nommer, avec lesquelles on n'a pas envie de travailler parce qu'on n'a pas envie de recevoir des fonds de ces personnes ou même des banques. Enfin, on n'a pas envie de répondre à des appels à projets ou des choses qui sont financées par certaines banques. Enfin, voilà. Donc, c'est aussi un équilibre un peu précaire, mais qu'on essaye de trouver.
Et est-ce que c'est un choix, on va dire, qui vous rend la vie difficile dans l'idée que sur une discussion que j'ai eue mais avec Thomas Belay justement de Locombia, on parlait du fait que par exemple pour un festival ou un événement, en fait, de dire je suis prêt à accepter de l'argent un peu de n'importe qui tant qu'on me dit en fait prends cet argent et on regarde pas ce que tu fais. Voilà, tu veux dire qu'on va te donner énormément d'argent, par contre, tu vas l'utiliser comme tu veux et faire ton
truc. Il faut quand même mettre le logo sur la plaquette.
Oui, il faut mettre le logo, on est d'accord, mais enfin voilà. Alors, sur le principe d'un événement, à la limite, le logo, bon, voilà, on voit tous des affiches d'événements, ils sont pas très gros les logos. On a les noms des groupes en plus gros, mais est-ce que pour des associations, c'est des, enfin, parce que bon, aujourd'hui, ça reste. Je pense qu'ici tout le monde en fait est en association. On n'est pas, il n'y a pas de coopérative ou d'entreprise. Est-ce que pour une asso, c'est quelque chose qui serait faisable? Est-ce que si demain la Société Générale vous dit tenez ça c'est 5 millions d'euros et on regarde pas. Par contre effectivement vous devez donner notre nom, vous devez dire notre nom tous les jours. Quoi.
Et eux pourront dire regardez on finance, regardez comme on est social, on finance Synapse. En tout cas eux ça c'est sûr qu'ils communiqueront dessus. Ça c'est une question très compliquée que tu poses parce que c'est vraiment chaque structure a sa réponse, chaque personne a sa réponse. Et pour le coup, moi qui accompagne des porteurs de projets, donc j'accompagne des gens qui montent des projets, qui peuvent être confrontés à cette question-là. À un moment, est-ce que je fais appel à la Fondation Total pour financer mon projet, quoi. J'ai autant de réponses que de porteurs de projets. Enfin, autant de réponses, non, il y en a deux, hein, c'est oui ou c'est non. Donc, il y en a. Mais en tout cas, enfin voilà, je dirais qu'il y a autant de justifications pour ceux qui disent oui que pour ceux qui disent non. C'est ça surtout. En tout cas, moi, personnellement, si je donne mon avis à moi, je respecte le choix des uns ou le choix des autres. Je comprends pourquoi on dit oui et je comprends aussi pourquoi on dit non. Peut-être c'est mon côté, je ne suis pas assez radicale. Je comprends une certaine radicalité, en tout cas. Voilà.
On va juste faire une petite pause parce qu'on va arriver à trois quarts d'heure et il faut que je copie. et ensuite on pourra continuer. Je pense encore un petit peu en fonction des emplois du temps de chacun. Et pour rester dans le thème, on va écouter la chanson Mange ton compost par le groupe Dalbéton. Alors avant cette coupure, de quoi qu'on parlait déjà ?
On parlait de schizophrénie dans le monde associatif. Et moi, je voulais citer un exemple parce que donc j'ai un parcours qui fait que je me suis investi soit en bénévole, soit en salarié dans différentes associations. Et clairement, je ne fais pas les mêmes choix en fonction des associations et des projets dans lesquels je me suis investi. Pour donner deux exemples, moi, j'ai travaillé pour TV Bruit où j'étais en partie bénévole et je pouvais des fois gagner un peu ma vie grâce à des prestations. TV Bruit se revendique comme un média indépendant. Bon, ben, clairement, j'aurais eu des positions plutôt radicales sur la manière dont, enfin, en tout cas, les finances possibles et qui on aurait été chercher et avec qui on aurait monté des partenariats. Ce que j'ai beaucoup moins avec Synapse. Synapse, on a un désir d'éducation aux médias et à l'information. En soi, travailler avec des médias problématiques, c'est intéressant pour nous pour comprendre comment ça fonctionne et pour pouvoir en parler derrière, en fait. Donc, je parle vraiment à titre personnel, hein, pas au titre de Synapse. Hein, on n'a jamais eu ce débat-là à Synapse, donc je tiens à préciser ça. Mais en tout cas, moi, probablement, je serais plus souple que quand j'étais à TV Bruit, parce que le projet n'est pas le même, parce que la finalité elle est pas la même. Donc ça joue aussi par rapport à la façon dont on fonctionne dans les assos. Et les deux sont viables et les deux sont intéressantes.
Oui, complètement. C'est-à-dire que tu as raison, pour prendre un exemple qui n'existe pas, mais une asso qui bosserait sur le recyclage du plastique, est-ce qu'elle peut demander une subvention à Total qui fait du pétrole? Ça me semble compliqué. En revanche, une asso qui effectivement accompagne, fait du soutien scolaire pour des gamins et qui, grâce à cette subvention, au lieu de toucher 50 gamins, elle pourra peut-être en toucher 150. Peut-être que là, par contre, pourquoi pas la Fondation Total ? Effectivement, tu as raison. Chaque finalité appelle à des réponses différentes aussi.
Oui, c'est aussi ce que tu disais avant qu'on coupe. C'est que toi, tu as envie de dire que tu comprends les gens qui veulent rester.
Si tu veux, après, l'important, c'est de savoir ce que tu fais, quoi. C'est toujours pareil, voilà. C'est ce que ça, voilà. Si tu sais ce que tu fais, tu sais avec qui tu le fais, tu sais pourquoi tu le fais. Et c'est pas tu flottes pas entre deux eaux. Mais ça, c'est des discussions que j'ai avec des porteurs de projets. Ça m'a fait penser la discussion qu'on avait à quelqu'un que j'avais accompagné qui refusait complètement d'utiliser Facebook. Alors c'était il y a quelques années. Et Facebook, pour le coup, était un média indispensable si tu voulais communiquer quand tu commençais une activité. Enfin voilà, par rapport à ce qu'elle voulait faire pour communiquer, pour démarrer, communication sur les réseaux sociaux, communication via Facebook, c'était indispensable. Mais elle refusait totalement d'utiliser Facebook. Bon, à un moment, on a été bloqué, quoi. Alors, elle a utilisé d'autres canaux de communication, etc. Mais ça n'a pas, enfin voilà, ça n'a pas pris, ça n'a pas. Bon, voilà, elle a toujours refusé, donc elle a dit non. Donc au final, elle a arrêté le projet parce que en termes de communication, c'était, enfin voilà, elle a pas réussi à trouver un autre canal, un autre outil de communication qui lui aurait permis de vraiment se développer. Et ça, c'est moi. Bon, après, c'est pour moi une des qualité primordiale pour un porteur de projet qui démarre son activité dans le champ de l'ESS ou ailleurs d'ailleurs, mais quand même beaucoup dans le champ de l'ESS, c'est de savoir faire face à l'environnement et de savoir s'adapter à son environnement tout en conservant. C'est pas anecdotique, tout en conservant ses objectifs, sa finalité et ses valeurs. Mais en tout cas, d'un moment, de pouvoir quand même un peu louvoyer, parce que de fait, quand tu montes un projet, tu as des opportunités, des trucs qui te tombent sur la tête et qu'il faut pouvoir, pour avancer, faire face à la réalité, quoi. Pardon, je reviens à ce que je disais, mais au moins, il y a une réalité qui est que, si tu veux développer une activité économique, puisqu'en général, c'est bien de ça qu'il s'agit, et bien, t'es dans un environnement économique et qu'il faut faire face avec cet environnement économique.
Mais est-ce que justement, le un peu ce modèle de base, on va dire, de coopérative et de mutualisation, ça va pas, enfin, aujourd'hui, on n'est pas un peu à l'inverse de ça. Enfin, quand tu dis, il y a une réalité, on est dans un milieu qui est capitaliste où c'est le plus fort survit et les autres meurent. De justement, quand des ouvriers se disent on va installer des coopératives et des mutuelles, etc., justement, est-ce qu'on n'est pas en train aujourd'hui, tu vois, est-ce qu'on n'est pas en train de dire on est à l'inverse complet? Alors après, sans savoir, je suis pas. J'ai pas leur message en tête, hein, des ouvriers de 48, mais de dire est-ce qu'on n'est pas justement en train de dire en fait, ce modèle-là, il n'existe pas et. Et en fait, c'est juste une question de à quel point on est radicaux dans notre démarche, hein, dans une démarche économique ou entrepreneuriale quelconque, quoi. Et que en fait, le côté social et solidaire, est terminé.
Bah là, pour le coup, c'est toi qui es radical, non?
Ah ouais.
Moi, je le vois de très loin. Hein, j'ai pas ton expertise. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'au contraire, il y a plutôt dans le monde capitaliste ou en fait dans tous les mondes économiques, quels qu'ils soient, au contraire, une volonté de se poser des questions sur les modes de gouvernance, les modes de gestion, les modes de tout ça, que probablement, ce regard et cette récupération de l'ESS vient probablement aussi de là, c'est-à-dire que s'inspirer de nouvelles méthodes, nouvelles façons de faire et de ça, et l'ESS est riche de ça. Du coup, parce que moi je discutais avec une responsable de DLA, donc dispositif local d'accompagnement, des dispositifs qui accompagnent les assos justement dans des difficultés, et souvent c'est des difficultés autour de la gouvernance. Bon, il y a mille exemples, il y a mille problématiques qui se posent dans n'importe quel asso, du coup, et qui font que c'est riche de plein d'expérimentations, quoi. Donc probablement il y a des choses qui pourraient être intéressantes pour ce monde-là. Le problème, c'est que quand c'est récupéré, ça peut être dévoyé, et en tout cas dans les mises en valeur de ce truc. Moi, mon problème, beaucoup, hein, mais parce que je travaille dans ce domaine-là, c'est vraiment la surcommunication de ces entreprises-là à partir du moment où elles font un petit truc qui ont changé leur mode de gouvernance ou leur mode d'action ou le truc qui est ridicule par rapport à ce que peut apporter une asso, le monde de l'ESS traditionnel, en fait, et qui tout d'un coup va prendre une place incroyable. Du coup, auprès des institutions, dans le monde médiatique, etc. Nous, on est un peu en train de le vivre à Synapse avec la question de l'éducation aux médias et à l'information, ce qu'on appelle l'EMI, où de plus en plus, du coup, c'est pris en compte par les politiques, par les institutions, par le monde de médias traditionnels. Bon, c'est encore tranquille par rapport à ce que vous pouvez vivre, vous, dans vos domaines, mais on le sent que c'est en train de monter en puissance et que nous, on existe depuis 20 ans. Enfin, moi, j'ai une expérience de 20 ans. Synapse existe depuis 5 ans. On a une lourde expérience là-dedans. Et on a une peur bleue, c'est de se faire submerger justement par cette vague et se faire récupérer du coup des projets qui ont un début, qui peuvent être intéressants. Hein, c'est pas la question. Ils peuvent être intéressants sur des choses, mais ils ont un début d'expérience. C'est balbutiant, quoi, en fait, quoi. Et c'est ça qui est gênant.
Ça m'amène une question. Je savais pas comment la poser, cette question, mais tu viens de me tracer une autoroute.
On se connaît tellement.
On n'a même pas répété. Non, en fait, c'est j'allais poser la question, dire est-ce qu'il y a une animosité entre, l'ESS associatif, qui est un peu comme ce qu'on dit ici, et cette ESS Ticket for Change qu'on avait vu avec le mec qui a repris la Camif en ayant flingué toutes ses boîtes avant, ce designer de permaculture, ces créateurs d'émotions.
Je pense qu'il peut y avoir une forme d'animosité dans le sens où ces personnes, ces structures peuvent dévaluer ce que nous on peut proposer. Parce qu'elle se revendique de l'ESS et que clairement on fait pas du tout les mêmes choses, mais dans le fond elles essayent de faire croire que. Mais d'un autre côté, Enfin, clairement, on ne va pas travailler avec les mêmes personnes et on va... Enfin, on va pas rentrer en concurrence quelque part parce que, bah oui, on va faire pas du tout les mêmes choix et on porte pas les mêmes valeurs et certaines structures ont un côté plus militant, entre guillemets, que d'autres.
Pardon. Non, j'allais dire aussi, si elles mettent en avant des sujets qui nous tiennent à cœur, nous, auprès d'un public plus large et plus grand, c'est quelque chose de positif, même si elles le font peut-être pas pour de bonnes raisons, ou si elles portent pas réellement ces valeurs-là, si elles le font plus dans une stratégie de com, ou, enfin, etc. Mais en tout cas, le fait que mettre en avant en tout cas des sujets que nous on trouve importants auprès d'un public plus large et peut-être un public qui est pas forcément éduqué ou auquel il s'intéresserait pas forcément. Enfin, qui ne s'intéresserait pas forcément à ce sujet-là.
Ouais, je ne suis pas sûre qu'il y ait effectivement, je ne pense pas qu'on puisse parler d'animosité. Je pense que du côté de l'entrepreneuriat social, start-up, machin, il y a une relative indifférence amusée par rapport à toutes ces petites structures alternatives. Voilà, un peu de condescendance et probablement un léger mépris. Mais bon, qui est pas. Et puis, du coup, par contre, du côté, je pense que du côté des petits, de l'autre côté, c'est pas de l'animosité, c'est de temps en temps, ça fait un peu chier. Putain, eux, ils ont eu 1 million pour faire ça, et moi, j'en chie avec mes. On m'a filé 10 000 balles. Voilà, peut-être une petite pointe de jalousie, mais de temps en temps, mais pas parce qu'effectivement, on fait pas la même chose, on n'est pas sur. On fait pas la même chose, donc bon, voilà. Après, si tu veux, tu peux personnellement, que tu sois dans une asso ou pas, t'indigner sur sur plein de choses. Mais là, je pense que ouais, non, on n'est pas sur les mêmes. Effectivement, on n'est pas dans la même catégorie. T'es content pour eux.
Mais est-ce que, enfin, mais du coup, ces structures-là, c'est quand même un peu des structures qui héritent de tout ce qui a été porté depuis toutes ces années par toutes les structures qui ont été créées, qui sont mortes ou d'autres qui existent encore, quoi. Donc c'est, vous verriez qu'il y a un moment, voilà, c'est parti dans deux directions différentes. Quand il y a des gens juste qui se sont dit, en fait, nous, on va juste faire du business avec tout ça. Et d'autres qui ont dit, bon, nous, on continue de faire ce qu'on faisait d'habitude. Et des fois, on sera un peu jaloux, mais c'est pas grave, quoi.
Je sais pas. Je sais pas. C'est dur. C'est difficile comme question. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pourquoi à un moment, c'est pas le SS qui porte ça. Enfin, tu vois, pourquoi c'est pas l'économie solidaire ? Parce qu'on peut peut-être caricaturer en disant d'un côté il y a l'économie sociale et de l'autre côté il y a l'économie solidaire avec des plus petites structures, etc. Pourquoi l'économie solidaire elle arrive pas, elle ne le fait pas ? Pourquoi elle arrive pas à le faire ? Pourquoi elle a pas envie de le faire ? Elle a pas les moyens ? Donc, si tu veux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup, ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup une absence d'envie parce que c'est pas, voilà, on n'a pas envie d'être national et de. Tu parlais de Ticket for Change, de faire toute la France avec le PDG de Danone, etc. Ben voilà, c'est pas forcément ce dont une petite structure de l'économie solidaire aurait envie. Donc, bon, après, tu peux pas dire, c'est pas bien, mais ben oui, mais mon gars, t'avais qu'à le faire aussi. Enfin. Tu vois, il y a un moment, tu as peut-être eu les opportunités à un moment de te développer et puis bah, tu ne l'as pas fait pour des bonnes raisons, enfin, voilà, ou qui t'appartiennent. Mais bon, à un moment, voilà, il y en a d'autres qui le font. Si tu veux, mais ça me fait penser, c'est pas exactement, mais la discussion me fait penser à ça. Pareil, quand j'ai démarré, j'ai l'impression d'avoir 95 ans, quand j'ai démarré, c'était le tout début des associations, enfin, associations, oui, parce que c'était des associations d'aide à la personne. Il n'y avait pas, ça c'est aussi un truc, on ne se rend pas compte, mais ce n'est pas si vieux. Tout ce qui est maintien à domicile des personnes âgées, etc. Avant, il y en avait pas, il y avait très peu de structures qui faisaient ça. Et celles qu'on commençait à le faire, c'était des associations au départ. Tout ce qui était aide à domicile pour les personnes âgées, avec les auxiliaires de vie qui passent, etc., chez les personnes âgées, c'était vraiment que des assos. Et là, il y a leur marché qui s'est ouvert énorme avec la population vieillissante, avec les maintiens à domicile, plutôt qu'en EHPAD, plutôt qu'en hôpital, etc. Enfin bon, tout ça, ça a été avec l'évolution aussi de la santé en parallèle. Évidemment, un marché énorme qui s'est ouvert, et ben, qui a été complètement pris en main par le marché. Enfin, et maintenant, c'est des fonds de pension américains qui ont des grosses structures, un peu comme pour les maisons de retraite d'ailleurs, qui gèrent et qui possèdent toutes ces structures de maintien à domicile et d'aide à domicile. Au départ, c'était que des assos. Hein. Vraiment, c'était que des petites assos. Là, j'ai accompagné certaines à se monter, quoi. Alors, il y en a quelques-unes qui subsistent, mais je pense qu'elles sont très contentes comme ça. Il y en a encore des assos, hein. Mais je veux dire, mais qui n'ont pas eu la vocation, qui n'ont pas eu l'envie de se développer pour faire face au marché, à un marché, à un moment énorme qui s'est ouvert et qui, ben voilà, sur lequel effectivement les entreprises classiques sont venues.
Mais tu vois, quand tu cites l'exemple des EHPAD, moi, en fait, c'est assez intéressant parce que au vu des actualités, alors c'est plus si récent que ça, mais ça doit être Orpea, c'était quoi, c'est il y a un an,
à peu près.
Quand on voit en fait que, enfin voilà, le ce qui se passe quand des vrais acteurs privés à recherche de rentabilité forte font quand ils prennent un pendu social dans le pays, est-ce que là c'est pas un peu dommage que ce soit pas une association qui continue à faire ça, tu vois, quand le gouvernement...
Ou l'État.
Alors ouais, ça c'était quelque chose auquel je voulais en venir, de savoir si en gros l'économie sociale et solidaire, c'était à chaque fois genre l'État se désengage, hop, on essaie de récupérer le truc. Mais alors si c'est pour dire on lâche l'affaire quand il y a des gros acteurs privés qui arrivent, bon bah en fait c'est dire bon voilà, tu vois, c'est... Sur un truc un peu idéaliste, on peut se dire, bon, bah, en fait, autant pas le faire parce que le combat n'est plus là. Oui, il y a un côté de dire, ok, peut-être que des assos n'ont pas voulu le faire, mais sur certains domaines, est-ce qu'elles n'auraient pas dû ou, voilà. Enfin, moi, je vois aussi quand l'État félicite les Restos du Cœur en disant, bah, si nous, on devait le faire, ça coûterait encore plus cher. Tu fais, mais on est... Enfin, c'est quand même zinzin, quoi.
Ah bah oui, parce que l'État, il ne peut pas bosser avec des bénévoles. Le Resto du Cœur, s'il n'y avait pas les bénévoles, il n'y a plus rien. Oui. Quoi. Donc, s'il fallait payer tous les bénévoles des Restos du Cœur, c'est sûr que ça coûterait très, très cher. Effectivement, mais après, tu ne peux pas reprocher... Enfin, c'est difficile d'en reprocher.
Ah, c'est pas un reproche, hein, c'est vraiment question naïve.
C'est difficile de reprocher à l'économie solidaire de ne pas vouloir être sur ces secteurs-là, enfin, de se positionner de cette façon-là, parce que c'est un peu intrinsèque aux valeurs qu'elles défendent.
Et est-ce que quand il y avait un ministère de... Parce que je pense qu'il n'existe plus, ce ministère de l'économie sociale et solidaire.
Si, je crois qu'il y a toujours une secrétaire d'État. Peut-être qu'il n'y a pas un ministère, mais il y a une secrétaire d'État chargée de l'ESS, il me semble. Un ou une. Il a dû être nommé... Si, ça va avec les sports, il me semble. C'est dans le ministère jeunesse sport et tu dois avoir vie associative.
Est-ce que c'est encore réel?
Parce qu'à l'époque, c'était rattaché au ministère de l'économie, ce qui était d'ailleurs une des grandes nouveautés, parce que pour le coup, voilà, ça donnait une reconnaissance à l'ESS, enfin, le fait que ce soit rattaché à l'ESS. Ça a été interministériel, ça a été rattaché au Premier ministre. Ça a été rattaché à l'économie. Là, aujourd'hui, je ne sais pas. Il me semble que... puisqu'il y a eu... Comment elle s'appelle qui était ESS. Non. Celle d'avant, là. Celle...
Oui, c'est elle.
Marlène Schiappa. Elle était secrétaire d'État ESS, Marlène
Schiappa. Et il n'y a pas de titulaire. D'après Wikipédia, il n'y a pas de titulaire depuis 2023.
Oui, il y a eu quelqu'un... Même pas. Depuis Schiappa, il n'y a plus. C'est possible. Oui, c'est possible. Il a...
Pas de titulaire depuis juillet 2023.
On a pas de chef, quoi.
Ouais. Ça serait pas un peu
plus... Ils ont pas expliqué. Du coup, est-ce qu'ils ont pas compris les valeurs? Non, ouais, la question portait un peu là-dessus, sur en fait, comment l'État lui s'est positionné là-dessus. C'est-à-dire que quand on a un ministère ou un secrétariat d'État chargé à l'économie sociale et solidaire, en gros, la vraie question, c'est est-ce qu'on file des thunes à Ticket for Change et le président de Danone, ou est-ce qu'on dit non, bon, alors attendez, on va réserver ce pan entier là du social, on va le donner à des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais des petits, etc., pour voir ce que ça donne, quoi. Apparemment, non. Apparemment, ça sourit pas trop.
Si tu veux, le désengagement de l'État partout, pour tout, vaut aussi dans le SS. Et effectivement, il reste un peu de sous pour des trucs qui peuvent faire un peu de buzz. Après, même Ticket de Fortune, je suis même pas sûre qu'ils aient des sous, qu'ils aient des financements publics. Peut-être, ils en ont un peu quand même, mais c'est quand même pas mal de fondations qui sont sur, par exemple, si on parle d'eux. Non, ce que je veux, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser au secteur du médico-social qui fait partie de l'ESS. Là, pour le coup, hein, le médico-social, on parle d'un champ énorme. Les IME, les ESAT, tous ceux qui s'occupent là, de tous ceux dont personne ne veut s'occuper, les handicapés, les malades, les machins, les enfants en difficulté, etc. Tout ce qui s'occupe des gamins abandonnés, enfin bref. Tout ce champ-là qui est quand même un truc, qui est quand même un champ énorme et qui est principalement porté par l'économie sociale et solidaire, financé, alors là, pour le coup, à 100%, parce que là, eux, ils ont cherché, mais ils n'ont pas trouvé comment arriver à se faire des sous, comment développer une activité économique. Vraiment, ils n'y sont pas arrivés. Donc, ils sont toujours financés à 100%, par l'État. Et pour le coup, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Pourquoi j'ai parlé de ça? Quel était le lien avec...
C'est
effectivement toujours dans cette même logique de désengagement de l'État qui ne porte plus lui-même un certain nombre de valeurs ou de voilà de valeurs et qu'il délègue à des associations et ça pose question ça quand même aussi. Pardon, je sais pas si c'est exactement le sujet, mais si tu veux, c'est des associations qui sont conventionnées par l'État, qui s'occupent donc pour le coup des plus fragiles d'entre nous, hein, et qui alors sont contrôlés un peu comme Orpea quand ils sont contrôlés. Alors là, c'est des assos, donc on peut se dire que a priori quand même, ils font peut-être les choses un peu mieux. Il y a des valeurs, il y a des conseils d'administration derrière, il y a des gens, il y a l'idée que de pas faire de bénéfices, de dividendes, machin, etc. Mais enfin bon, il y a quand même je trouve des choses pas forcément toujours très 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 claires qui se passent aussi là. Bon, je sais pas si c'est dans le sujet en fait. Je sais pas si on est peut-être un peu sorti du sujet, mais non. Oui, puisque si ce que je voulais dire quand même, c'est que par rapport à ce que tu disais, Orpea, etc. Effectivement, les maisons de retraite, si tu veux. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été vraiment étonnés par Orpea et par les conclusions là du bouquin du mec. Enfin, je veux dire, c'est des commerçants les mecs. Enfin, je veux dire, c'est des commerçants, donc ils sont pas là pour le bien-être de la personne âgée. Alors si c'est peut-être ce qu'il y a écrit dans leur plaquette, mais je veux dire, qui peut croire que c'est leur objectif principal? Leur objectif principal, c'est de faire de l'argent et c'est leur... Enfin, je veux dire, à un moment, tu peux pas reprocher un chien d'être un chien, ou un chat d'être un chat, pour être plus positif. Un chien, c'est un peu. Mais là, on parle d'un. On est carrément sur une question beaucoup plus générale du libéralisme, de la dérégulation du marché qui a été favorisée par tous nos gouvernants depuis François Mitterrand, en gros. Hein, c'est lui qui a commencé, 83. Bon, pardon, on n'est plus du tout dans le sujet.
Non, c'est ça, on y est encore. Après, j'allais dire, ça fait là une petite heure, je crois, qu'on papote, qu'on papote enregistré. Peut-être on va... commencer à conclure, sinon ça fait un gros paquet de
juste peut-être rappeler, parce que donc on a fait un épargne décryptage autour de ces thématiques là et du coup on a parlé donc ce fameux blue washing et on a fait quand même un exercice rigolo qu'on peut réévoquer Donc on a trouvé grâce à vous cette vidéo de Ticket for Change du coup qui nous a inspiré et surtout ce qu'on a trouvé dans cette vidéo, peut-être on mettra le lien avec le podcast, c'est que il y avait tout ce qu'on peut appeler la langue de bois en fait, donc cette capacité du coup à construire un discours avec des mots un peu clés. Quand on creuse un peu, quand on analyse un peu les phrases, et donc là c'était la construction du montage, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'interviews, il n'y avait pas de voix off, c'était ça qui était impressionnant. C'était que des assos, enfin des personnes travaillant dans des assos qui avaient bénéficié du coup de l'accompagnement de Ticket for Change, et que à travers du coup le montage, et ben finalement ils avaient réussi à reconstruire encore un discours un peu langue de bois. Et donc, on s'est amusé pendant cet apéro décryptage à prendre, je crois que c'était 10 mots, je crois, qu'on a relevé sur cette vidéo et par groupe dans le public qui était présent. On a reconstruit nous-mêmes 4 ou 5, je ne sais plus, discours à partir de ces mots-là pour montrer un peu sur le modèle de ce que fait Franck Lepage dans son spectacle Inculture, pour montrer que très facilement, avec des mots-clés, on peut construire du discours et donc blue-washer un peu son entreprise, ou en tout cas ce qu'on revendique. Mais ça dit des choses, c'est que là, tout ce qu'on vient de discuter, c'est des questions de fond, en fait, qu'on se pose dans nos structures, qui se posent dans, effectivement, notre économie libéralisée, dans ces politiques, comme tu l'as bien dit, à partir de 83 et ce choix Mitterrand de nous amener vers ça, mais que finalement, derrière ces questions de fond, assez facilement, du coup, avec de l'image, avec du son, sur de la forme, on peut faire très facilement du bullshit, quoi, en fait. Et peu importe les questions qu'on se pose dans le fond, en fait, on va édulcorer le truc, faire du discours. Et quelqu'un qui ne s'y connaît pas, quelqu'un qui est loin de ce monde-là, et malheureusement, y en a beaucoup, en fait, et pourtant qui peuvent profiter de ça ou qui peuvent être intéressés par ces questions-là, vont être noyés aussi dans des discours un peu bullshit. Et ça devient de plus en plus dur de faire le tri, en fait. Parce que ces vidéos-là, ça passe très bien sur des réseaux sociaux, ça passe très bien en chaîne YouTube, ça passe très bien dans la communication un peu qu'on a l'habitude de voir sur nos écrans et qui est pas décryptée, quoi, du coup, qui est difficilement décryptable.
Est-ce que c'est des trucs qui pourraient poser problème, on va dire, dans la fabrique aussi des réseaux, enfin du tissu qui soit associatif ou coopératif, etc. Des acteurs et actrices de l'économie sociale.
On a parlé du mécénat, par exemple. On sait que nous, dans ce qu'on a étudié, en tout cas, de potentiellement avoir du mécénat à Synapse, on sait qu'il y a une volonté. Enfin, il peut. Ce qui va être porteur, du coup, pour convaincre un mécène de nous filer de la thune sur tel ou tel projet, ça va être justement notre capacité de communication, en fait, et notre vitrine un peu internet et comment on est acteur sur les réseaux sociaux et tous ces trucs là. Donc nous on est mort, hein, à Synapse parce qu'on fait ça très mal et on va pas y aller, du coup. Mais voilà, c'est vraiment ce truc que si t'existes pas, en fait, par exemple sur ce truc là, c'est difficile du coup de rentrer dans ce réseau là, quoi.
Du coup, ouais, c'est ça. Moi, c'était un truc aussi que je me posais comme question, c'est de dire en fait à quel moment aujourd'hui on en arrive à des coquilles vides qui sont effectivement que du discours et où il n'y a plus d'actions concrètes qui sont faites et donc il n'y a plus d'impact sur la société. Et donc voilà.
On fait des petits podcasts, on en discute, on les diffuse et puis on fait ce qu'on peut. Hein.
Voilà, ça fait une petite heure qu'on parle. Du coup, je pense qu'on va pas plus conclure que ça. Merci à toutes et tous d'avoir pris ce temps dans cet après-midi pour parler ensemble de ça, de ce grand sujet qui est l'économie sociale et solidaire. Voilà, nous, on fera un prochain podcast dans un mois.